ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Chantal Baird-Demander, vous êtes à la fois déléguée régionale pour la commission Incroyance et foi, et puis vous avez des responsabilités dans l'Union française contre les nuisances des aéronefs. Merci Chantal d'avoir accepté cette invitation, d'autant plus que nous commençons une saison 2 de cette série d'émissions sur les convictions et sur les croyances, une série d'émissions qui donne la parole à des personnes de toute conviction. Et l'année dernière, saison 1, je fais un bref récapitulatif parce que nous avions pu dialoguer avec 35 personnes, autant des chrétiens, autant des personnes qui ne croient pas en Dieu, des communautés juives, musulmanes, des bouddhistes, védiques, agnostiques, et voilà. Donc là, aujourd'hui, ben, merci de commencer la nouvelle saison parce que vous êtes délégué régional de la commission Incroyance et foi.
Alors, bonjour Benoît, merci de m'inviter pour la deuxième fois dans votre émission. Alors, juste une petite rectification, mon mari et moi-même, Pascal donc, et moi-même Chantal, sommes délégués, co-délégués, mais diocésains. Et c'est Martin Pochon qui est le délégué régional, qui est en quelque sorte notre aumônier, notre responsable régional, puisque nous couvrons toute la région, toute la province apostolique en matière de dialogue avec les incroyants. Alors non, qui n'est pas toujours très judicieux, parce qu'on croit toujours en quelque chose, mais c'est le terme qui a été consacré et voulu par les évêques à la suite de Vatican II pour établir un dialogue à l'époque entre deux grandes entités qui se tournaient un peu le dos, qui étaient les catholiques et les communistes. Alors depuis, ça a énormément évolué. Maintenant, en 2020, les frontières de l'indifférence, de l'incroyance se sont énormément allongées, diversifiées. Il ne reste plus beaucoup de communistes. Et des incroyants, il y en a malheureusement beaucoup.
Surtout donc, des incultes. Et c'est pour ça que, oui, quand on dit ceux qui sont sur le parvis.
Exactement, ceux qui sont sur le parvis. Et c'est pour ça que l'initiative aussi du Parvis des Gentils était une bonne initiative, voulue aussi par Rome. Et ça, c'était bien. Donc, notre dialogue avec les incroyants s'inscrit donc au niveau régional. Et nous, chaque année, nous faisons deux sessions importantes pour appeler donc à discuter autour d'un certain nombre de sujets transversaux à la société civile et à notre communauté religieuse catholique, puisque nous parlons à l'Institut catholique, donc dans le cadre de nos rencontres.
Ce sera le 17 octobre qui est prévu déjà.
Alors, le 17 octobre à 9h30, nous avons une session qui risque d'être aussi fort intéressante, puisque elle portera comme titre « La transition écologique et énergétique dans tous ces états, quel levier concret pour accélérer le changement ? » Alors, nous avons pour nous aider effectivement l'encyclique Laudato Si, donc de 2015, qui reconnaît le respect de la création et des actes désormais nécessaires pour la sauver. Donc pour nous, c'est super important. Et nous nous inscrivons bien, nous aussi catholiques, toujours dans la transcendance, mais aussi toujours avec un pied dans l'immanence. La création, c'est ce qui est sur terre, c'est ce que nous devons sauver. Et nous, par la même occasion. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette démarche.
Pour ça, vous invitez chaque fois des personnes qui sont à la fois engagés dans la cité, je pense qu'il y aurait sans doute quelqu'un qui vient d'être élu au niveau de la communauté de la ville de Toulouse, et puis aussi des personnes qui sont engagées dans l'Église ou qui ont une responsabilité par l'Église, qui sont invitées à avoir une responsabilité pour ouvrir à l'écologie.
Tout à fait. Alors, nous sommes toujours très attentifs à avoir ce balancement dans un dialogue entre la société civile et donc les élus. Donc, nous cherchons un élu, nous l'avons trouvé, mais c'est vrai que ce n'était pas toujours évident de pouvoir débaucher les élus au pied levé. Donc, nous avons déjà un certain nombre de personnes, dont Michèle Bleuze, militante d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, pour la partie des commissions diocésaines ou de tout ce qui est de l'Église, nous avons aussi des candidats. Donc, on est en train là de peaufiner, de mettre le dernier trait à l'organisation de cette journée qu'on espère bien. Alors, avec le peu de lisibilité qu'on a sur la possibilité de recevoir beaucoup de monde dans un...
Confiné ou pas.
Mais ce défi est lancé à tout le monde. Donc, on est obligé d'être inventif sur les nouvelles formes de dialogue qu'on doit instituer. Donc, ça ne nous fait pas peur. On est là.
Il faut dire aussi que notre radio présence n'est pas une radio sur Toulouse ou le département, mais sur toute la région. Et la commission Incroyance et Foi est aussi... Une institution qui déborde la région, et c'est tout le débat puisque Martin Pochon est le délégué régional.
Tout à fait. Alors, tous les départements sont représentés de la région Occitanie sont représentés, et on avait même anticipé, parce que depuis longtemps déjà les Pyrénées-Orientales faisait partie de notre région. Donc, il est certain que cette rencontre multiforme, multipartite, avec des partenaires très différents qui, chacun où ils sont, ont des initiatives qui, d'un café philosophique, d'un café théologique, de réunions thématiques, par exemple à Tarbes, organisées par un parvis de chrétiens. Donc, toutes ces initiatives très, très différentes font la richesse de cette rencontre. Et l'après-midi, qui est réservé à nos échanges entre soi, et le matin, qui est par contre tout public, nous permet de faire le point sur toutes les initiatives en matière de dialogue avec ceux qui ne croient pas, ceux qui croient différemment, ceux qui sont éloignés de l'Église, ceux qui sont sur le parvis.
Ça veut dire que nous sommes dans une société laïque où... votre engagement se situe aussi à la fois dans le cadre d'une réflexion avec les non-croyants et également, ce n'est pas du prosélytisme, c'est un dialogue, comme le veut cette émission ici, « Ma foi, j'y crois ».
Alors complètement, aucun prosélytisme chez nous, ce n'est pas sur le nombre de conversions qu'on sera jugé, mais c'est sur la qualité du dialogue qui permet d'apporter aux uns et aux autres, c'est-à-dire à la société civile, un regard de l'Église qui n'est pas repliée sur elle-même, qui ne passe pas son temps à penser qu'à la prière, mais qui est engagée dans la cité. Et vice-versa, de l'autre côté, à donner à l'Église la vision d'une société civile qui n'est pas anti-religieuse, qui n'est pas contre les cathos de façon systématique et permanente. Donc, c'est un œil positif que nous souhaitons porter à la fois sur la société civile et sur l'Église par l'intermédiaire d'un dialogue non prosélyte.
La question que je pose souvent à mes interlocuteurs, c'est la Bible. Est-ce que ça nous donne des éclairages sur les problèmes de société que nous rencontrons aujourd'hui? Nous sommes en période de déconfinement et nous allons aborder un autre thème autrement important pour vous, ou plutôt également important pour vous, qui est la lutte contre les nuisances, les bruits. Et alors, c'est un petit peu le grand écart, ou bien vous arrivez, je veux m'adresser au niveau de votre intimité ou de votre réflexion privée, comment se fait, on va dire, la lecture de l'Ancien ou du Nouveau Testament et du message de Jésus?
Alors, partons de la Bible, puisque c'était le point de départ. La Bible est un formidable récit à multiples facettes, symboliques, historiques, poétiques, qui nous met en relation de façon permanente avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec notre passé, notre avenir. Et avec ce Nouveau Testament qui inscrit vraiment de façon extraordinaire la nouveauté de la bonne nouvelle, nous sommes en lien dans tous les combats que nous menons, lorsque ces combats visent notamment à réduire les inégalités intrinsèques à la société humaine. Et donc, vous faisiez allusion à la lutte que je mène depuis maintenant 30 ans dans le cadre des nuisances aériennes à Toulouse comme ailleurs, puisque donc j'ai accepté d'être depuis 5 ans la présidente de l'Union française contre les nuisances des aéronefs. Et cette lutte me paraît saine, mais on va sans doute l'aborder bientôt, parce qu'elle permet de faire la jonction entre une lecture chrétienne et une lecture laïque de ce que peut être un engagement jusqu'au bout, parce que ça fait 30 ans, on peut dire que c'est vraiment l'engagement d'une vie. Voilà, donc oui, la Bible apporte un éclairage, et notamment sur la création, le texte est absolument formidable, mais il ne peut pas être lu en première lecture comme ça, donc il faut absolument revisiter ensemble, et notamment à l'occasion du dérèglement climatique qui s'installe, qui est installé depuis longtemps, il faut repenser absolument notre façon d'envisager la création, repenser nos façons de voyager, repenser le tourisme, repenser tout ça. Donc, il faut aborder vraiment les yeux ouverts en regardant aussi la lecture et ce que nous propose la Bible et le Nouveau Testament.
Repenser les symboles de la Bible, ça veut dire quoi? C'était mieux avant. Vous avez apporté une petite chanson pour nous ramener à il y a 20 ou 30 ans et en même temps de forte actualité.
Non, ce n'était pas forcément mieux avant, mais il ne faut pas oublier qu'avant, il y a eu avant. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson de Brassens, qui d'ailleurs est chantée aussi avec Patachou. Donc, j'ai toujours aussi aimé l'homme, la femme, l'égalité, la parité, c'est parfait. Et vous allez voir, moi j'aime bien cette nostalgie. Il ne faut pas oublier son passé, mais il n'est là que pour préparer l'avenir. Donc, moi j'aime bien, vous allez voir, elle est gaie.
Alors, nous l'écoutons.
Je redeviens petit garçon, alors je suis sage en classe. Et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman, maman.
Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson. Maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Chantal Père-Demandère, vous êtes co-déléguée du service Incroyance et Foi. Et également responsable de l'UFCNA, l'Union française contre les nuisances des aéronefs. Et vous venez nous faire entendre une petite chanson pleine d'humour. Mais alors, une société sans avion ou une société comme avant
Non, une société sans avion, ce n'est pas possible, ce ne serait pas génial. Et en plus, on est dans la ville qui construit des avions et qui est en train de subir de plein fouet la crise actuelle. Donc, ce n'est pas souhaitable, même si, je crois que c'est important, les nouvelles générations ont quand même pointé du doigt depuis pas mal de temps que le dérèglement climatique était aussi causé par un excès de transport aérien et de nouveaux partenaires des réseaux donc plus jeunes et plus radicaux que nous s'installent dans la population, comme Stay Grounded, la honte à l'avion, le réseau Action Climat, Alternativa ou l'action non-violente COP21. Tous ces réseaux donc jeunes qui ont plein d'énergie disent il faut voyager le moins possible, réservons-le au long courrier, il faut préférer le train, notamment redévelopper le train de nuit, etc. Donc, et nous, riverains, qui sommes les opposants, disons, historiques au développement des nuisances, nous sommes donc, dans la ville de Toulouse, confrontés à un gros problème. C'est que c'est très compliqué à Toulouse de dire qu'on est contre un développement de l'avion, puisque l'avion fait vivre de nombreuses personnes, des milliers, des centaines de milliers de personnes à Toulouse. Mais justement, il faut éviter de tomber toujours dans cette caricature et dans cette confusion. Il y a deux choses. Il y a la construction aéronautique qui est relativement respectueuse des riverains. Ils ne font pas d'essai la nuit, ils essayent plus ou moins d'emprunter des couloirs qui ne sont pas trop perturbants. Et il y a la présence de cet aéroport, donc qui est là depuis les années 40, dans la ville, dans le tissu urbain. Et c'est ce dérèglement-là, parce que l'augmentation du trafic a fait que ça devient de plus en plus pénible pour les gens. Alors, pas maintenant, puisque donc, le trafic s'est effondré, mais jusqu'à présent. Et donc, il y a ces deux choses-là. Donc, on ne faut pas tout mélanger. Et nous disons qu'il y a eu plusieurs effets. Il y a eu, en 96, l'ouverture à la concurrence, en 1996. Le ciel a été dérégulé. On a ouvert à tous azimuts le ciel. Ensuite, il y a eu l'arrivée des low-cost à Toulouse et ailleurs. Et ensuite, il y a la privatisation de l'aéroport de Toulouse, suivie d'autres privatisations. Donc, tous ces phénomènes-là font que la Direction générale de l'aviation civile, qui a pour objet, normalement, de protéger la population, d'essayer de faire des trajectoires les moins nuisantes possibles, s'est trouvée débordée à Toulouse comme ailleurs. Voilà. Et donc, c'est un gros souci pour nous. Et je ne voudrais pas qu'on nous fasse le mauvais procès de dire « vous êtes des empêcheurs de voler en rond ». Non, parce que nous avons bien conscience que l'avion est un superbe outil, mais qu'il ne peut pas être employé n'importe comment. On ne peut pas dire qu'on va aller passer 48 heures à l'autre bout de l'Europe pour 19 euros, revenir à 3 heures du matin, se poser comme fait Volotea avec un vol depuis Héraclion, réveiller 100 000 personnes au-dessus de son passage et laisser des voyageurs hébétés à 3 heures du matin dans une aérogare vide. Donc, on faut repenser le transport aérien avec l'intelligence dont nous sommes capables et avec l'idée que l'écologie, elle aussi, doit être inscrite dans la réflexion.
Et l'État peut modifier le programme de ces compagnies aériennes et de toute cette concurrence internationale.
Alors, il faut savoir que le lobby aérien est excessivement puissant. Ce ne sont pas les États qui ont décidé qu'il fallait fermer les frontières pour les avions. C'est IATA, c'est-à-dire l'organisation du transport aérien. C'est un jour IATA qui, devant effectivement la crise sanitaire, a dit « il faut fermer les frontières ». Ce ne sont pas les États qui l'ont fait. Bon, maintenant, donc, c'est bien le lobby super puissant qui donne ses ordres aux États. Mais il y a une liberté qui est laissée aux États, aux collectivités, de pouvoir réglementer un trafic qui a été déréglementé. On peut par exemple demander à ce qu'il n'y ait plus d'avions la nuit. Alors la nuit, l'Organisation mondiale de la santé, elle dit que c'est 8 heures. Il faut peut-être commencer déjà par faire du minuit ou du 11h30, 6h du matin. Et à ce moment-là, dire pas d'avion pour préserver le sommeil des gens. Et si on préserve le sommeil des gens, on préserve la santé des gens et on a la moitié des plaintes qui vont tomber. Donc, une population qui sera soulagée. Et voilà, donc, il y a des choses relativement simples qui peuvent être mises en place. Est-ce que c'est obligatoire de faire voler la nuit du fret pour que Amazon puisse livrer le bouquin que vous avez commandé à 9h du matin, s'il n'arrive qu'à midi ou à 1h? C'est possible tout ça. Donc, et je vous dis, une fois de plus, faire atterrir des touristes à 3h du matin n'a aucun sens.
Est-ce que ce n'est pas la bataille du pot de terre contre le pot de fer? Lors de votre dernier entretien, l'année dernière, on peut encore le consulter, vous aviez évoqué la question de la non-violence et de votre conviction à pouvoir faire avancer des dossiers contre des personnes qui n'ont absolument pas la même position que vous, ni la même puissance financière. Donc vos convictions...
Alors, bien sûr, je vous ai dit, le lobby en face duquel nous nous trouvons est un lobby super puissant. Donc, les riverains ne sont pas un lobby, même si maintenant, au niveau de la Commission européenne, nous sommes reconnus, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre mot, comme un lobby. Bon, très bien. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, mais en tous les cas, on est reconnus. Donc, on est reconnus riverains d'aéroports au niveau européen, ce qui nous donne une crédibilité auprès des services de l'État, de la Direction générale de l'aviation civile, des collectivités, et donc on ne peut pas faire comme si nous n'existions pas. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, nous avons eu des victoires. Nous avons eu enfin le département et la région qui ont accepté de cofinancer un observatoire du bruit indépendant. Et la notification est passée, donc ça va se faire. Dans les mois qui viennent, sera installé un observatoire du bruit qui, donc indépendant, qui remettra ses avis sur le bruit à Toulouse. Ensuite, nous avons par exemple eu l'abandon d'une procédure, d'une trajectoire qui venait impacter de nouvelles populations au sud. Parce que on nous fait toujours le reproche, on nous dit « mais vous êtes venu vous installer là, pourquoi vous râlez ?» Ça pourrait être relativement vrai si on ne modifiait pas les couloirs. Des gens viennent s'installer en se disant « tiens, là, je choisis entre tel endroit pour ne pas être embêté par les avions. Je regarde les plans, je ne suis pas embêté. » 3 ans plus tard, modification du couloir. Les gens sont rejoints par le bruit. Et au nord, comme au sud de l'agglo, ils en font actuellement l'expérience. Et toutes ces personnes-là, donc, nous téléphonent, nous disent « mais on soutient votre combat parce qu'on s'aperçoit que vraiment c'est terrible et puis on refuse, puisqu'on n'a pas choisi de venir s'installer là, de les avoir. » Donc, on a commencé à Toulouse et ailleurs à faire prendre conscience aux gens que les nuisances aériennes, c'était vraiment une réalité et que parfois, on ne pouvait pas y échapper.
Le bruit est éphémère et le développement durable, bon, voilà un slogan. Mais vous avez des personnes qui vous inspirent dans votre combat?
Alors, des personnes qui nous inspirent dans notre combat. Oui, alors, moi, tout de suite, j'ai pensé à un grand saint qui est François d'Assise.
Non-violent et écologique.
Exactement. Donc, il me semble que là, on peut se retrouver. Et vraiment, c'est une figure emblématique et dans laquelle peuvent se retrouver aussi beaucoup de nos concitoyens qui ne croient pas, parce que c'est vraiment à la croisée des chemins et vraiment parfait d'aujourd'hui. Voilà.
C'est-à-dire que vous travaillez ou vous militez avec des personnes de toute conviction, mais en même temps, vous ne cachez pas votre appartenance lorsqu'il le faut. C'est-à-dire puisqu'il nous faut conclure cette émission, mais je sais que vous avez aussi des mots à dire de votre engagement.
Alors, je pense que beaucoup de personnes connaissent mes convictions religieuses au niveau des associations locales que je préside, donc le collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine, et elles sont heureuses à chaque fois qu'elles ont quelque chose à me dire, m'en faire part. Donc, je trouve vraiment bien d'avoir pu établir ce pont. Maintenant, je ne brandis pas comme un drapeau mon appartenance à cette communauté religieuse à laquelle je suis très attachée. Voilà, mais ils le savent et c'est important. Voilà, donc c'est un trait d'union entre nous.
Juste un témoignage, c'est ça. Et on peut aussi contacter d'autres sources d'informations que le cours moment que nous avons passé ensemble, parce que je crois que, enfin, si je peux le dire, www.ufcna.eu, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre de la France. Il s'agit de toutes les associations qui luttent contre les nuisances aériennes.
Oui, tout à fait, puisque l'UFCNA est adhérente de l'Union européenne contre les nuisances aériennes, hein, qui regroupe donc de nombreux pays. Il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a énormément d'entités, de pays qui ont rejoint cette Union européenne, qui d'ailleurs est même encore plus âgée que l'UFCNA, je crois un an avant. Donc, c'est une bonne façon de voir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et ça fait plaisir.
Un monde uni et en même temps une planète qui peut être davantage viable.
C'est une planète qu'il faut sauver en restant respectueux et en pensant un petit peu maintenant à nos enfants et à les inscrire dans une décroissance raisonnée.
Merci Chantal.
Merci Benoît.
À bientôt.